Bonjour, au micro Idrissa Seroudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Pour commencer, le coronavirus, la pandémie poursuit sa sinistre progression, même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays en Europe et aux États-Unis, où le rythme des décès journaliers ralentit. La maladie a déjà tué plus de 112 500 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22 020 décès pour plus de 555 000 cas confirmés. L'Europe demeure le continent le plus durement touché par la pandémie, avec un total de 75 011 morts pour 909 673 cas. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant avec Eric Manirakiza. Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître une récession économique, prévoit la Banque mondiale. Avec une croissance de 2,4% en 2019, la récession devrait se chiffrer en 2020 entre moins 2,1% et moins 5,1%. Les économies africaines sont victimes de la chute brutale de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux, particulièrement la Chine, la zone euro et les États-Unis, des cours des matières premières, de la baisse de l'activité touristique ainsi que des effets des mesures de lutte contre la pandémie, comme le confinement, analyse la Banque mondiale. Au Niger, 491 cas de coronavirus, dont 11 décès, le port du masque est désormais obligatoire à Niamey, la capitale. Tout ce qui peut protéger le nez et la bouche, bavette, turban, hijab, foulard, ont annoncé les autorités municipales. Pour sa part, le gouvernement a prolongé l'isolement de la ville du reste du pays, ainsi que le couvre-feu et l'état d'urgence. Le port du masque est aussi obligatoire au Bénin, au Maroc ou encore à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au Nigeria voisin, le président Muhammadu Buhari a demandé une fois encore aux Nigérians de rester à la maison, sans préciser si les mesures de confinement de 14 jours qui doivent prendre fin ce lundi dans trois états du pays étaient renouvelées ou non. Sur Twitter, des centaines d'internautes imploraient la présidence nigériane ainsi que le gouvernement de l'état de Lagos de lever les mesures de confinement pour pouvoir continuer à travailler et à se nourrir. Il y a 318 cas déclarés de coronavirus et 10 décès au Nigeria. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé hier qu'un soldat burkinabé et 6 djihadistes présumés ont été tués samedi dans une attaque contre 2 unités militaires à Gibo, chef-lieu de la province du Soum dans le nord du pays. Le chef d'état-major des armées, le général Moïse Menengo, a par ailleurs confirmé dans son communiqué la mort de 5 autres militaires le 19 avril lors d'une attaque contre un détachement militaire à Solé dans la province du Loroum, toujours dans le nord du Burkina. Les attaques djihadistes ont fait au Burkina plus de 800 morts et près de 860 000 déplacés depuis 2015. En République démocratique du Congo, un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays a été enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi, ont indiqué les autorités sanitaires congolaises. Une enfant est décédée de la fièvre hémorragique dans la ville de Beni, qui fut l'un des épicentres de cette épidémie déclarée le 1er août 2018, a-t-on précisé de même source. Les pays exportateurs de pétrole, Arabie Saoudite et Russie en tête, ont convenu hier soir d'une baisse de production d'une ampleur inédite dans l'espoir d'enrayer la chute des cours affectés par la pandémie de nouveau coronavirus. Les cours du pétrole ont rebondi ce lundi sur le marché en Asie. VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seroudia.
La suite de nos informations. En République du Congo, un appareil d'Air France qui devait rapatrier hier des Français vers Paris a été endommagé la veille par des tirs qui n'ont pas fait de victimes à l'aéroport de Pointe-Noire. Le point avec Michel Joseph.
Dans la soirée de samedi, un Airbus A330 de la compagnie a été endommagé suite à un incident sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-Noire, a indiqué Air France dans un communiqué. L'appareil a subi des impacts de balles alors qu'il était à l'arrêt, sans équipage ni passagers à bord. Air France dit avoir déposé plainte et une enquête a été ouverte par les autorités locales. L'appareil devait effectuer un vol de rapatriement entre Pointe-Noire, Bangui et Paris-Charles-de-Gaulle hier dimanche. Le vol est reporté de 24 heures. Apparemment, l'incident est lié à une altercation entre un agent de la Direction générale de la sécurité du territoire et son chef. L'agent qui a tiré était sous l'emprise de l'alcool. C'était un tir à la calache en l'air qui a touché l'avion, a indiqué une source proche du dossier sous couvert de l'anonymat. À Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso a transmis ses profonds regrets à son homologue français Jean-Yves Le Drian après cet incident.
La pandémie de coronavirus a déjà fait près de 114 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 1 900 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Eric Manirakidza.
En Afrique, où près de 13 000 cas et environ 700 morts ont été enregistrés selon les chiffres officiels, le virus se répand au-delà des grandes villes, selon la chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour le continent. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché, tant en nombre de décès que de cas recensés. Ils ont franchi le cap de 21 000 morts dimanche, selon un bilan de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. L'Europe est le continent le plus durement touché. La Chine, où l'épidémie est globalement endiguée, a annoncé dimanche 97 nouveaux cas importés de contamination dus à des personnes arrivant de l'étranger. Les États-Unis ont vivement dénoncé la xénophobie des autorités chinoises à l'égard des Africains qui se disent victimes de discrimination dans la ville de Canton après plusieurs cas positifs dans la communauté nigériane. L'Union africaine a fait part à la Chine de son extrême préoccupation, appelant à des mesures rectificatives immédiates. La Chine a rejeté dimanche tout racisme et promis d'améliorer son traitement des Africains dans cette ville de Canton, dans le sud, qui se disent victimes de discrimination en raison du Covid-19. L'Asie du Sud, l'Inde, Bangladesh, Pakistan et Afghanistan risquent de subir cette année sa pire performance économique en 40 ans, ce qui va nuire aux efforts de lutte contre la pauvreté dans la zone, a estimé dimanche la Banque mondiale.
Une réouverture graduelle et localisée des activités économiques pourrait intervenir en mai ici aux États-Unis, alors que l'épidémie de coronavirus semble s'approcher de son pic, a estimé dimanche l'expert en chef du gouvernement américain, tout en restant très prudent. De nouveau, Michel Joseph.
Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, qui représente la communauté scientifique dans le groupe de travail mis en place par le président Donald Trump pour lutter contre l'épidémie, s'est dit optimiste sur un repli de l'épidémie. Les admissions, les hospitalisations, les soins intensifs et les intubations commencent à redescendre, a expliqué le scientifique, voyant cette baisse avec un optimisme prudent. Selon lui, décider d'un retour à la normale du pays qui s'est enfoncé dans la crise depuis la fermeture brutale d'une partie de l'économie, ce n'est pas comme rallumer une lampe. Il faudra étudier les disparités de la pandémie sur le territoire entre les grandes métropoles frappées par le Covid-19 et les zones rurales où l'épidémie semble plus faible, a-t-il souligné. Les mesures décidées ne seront donc pas les mêmes pour tout le monde, a-t-il dit. Le président Donald Trump insiste régulièrement sur un redémarrage le plus vite possible et sur le danger que pourrait, selon lui, faire courir une date trop tardive, alors que le taux de chômage a explosé avec les licenciements massifs.
Le pape François a proposé hier, dans son message de Pâques, de réduire, voire d'annuler la dette des pays pauvres, et il a lancé un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l'Europe face à la pandémie de coronavirus. Eric Manirakidza.
Dans un monde opprimé par la pandémie qui met à dure épreuve notre grande famille humaine, le pape François a appelé à répondre par la contagion de l'espérance dans son message prononcé dans une basilique Saint-Pierre vide. Il a souhaité que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens et appelé à la solidarité internationale en réduisant, sinon carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres. Que ses frères et sœurs plus faibles, qui peuplent les villes et les périphéries de toutes les parties du monde, ne soit pas laissé seul à exhorter le souverain pontife. Il a eu une pensée particulière pour les personnes âgées et les personnes seules, les médecins et les infirmiers, les forces de l'ordre et les militaires, tous ceux qui travaillent dans les maisons de santé ou qui vivent dans les casernes et dans les prisons. François a aussi répété son appel à un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde. Le pape a notamment évoqué le Yémen et la Syrie, mais aussi l'Irak, le Liban, le conflit israélo-palestinien, l'Est de l'Ukraine, les attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes en Afrique, le drame des migrants et la situation humanitaire dans le nord du Mozambique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'État sénégalais a passé une commande de 5000 tonnes de riz, 500 tonnes de sucre, 1000 tonnes de pâtes, 10 000 litres d'huile ainsi que du savon à distribuer à 1 million de ménages défavorisés, soit 8 millions de Sénégalais les plus vulnérables aux effets économiques du COVID-19. Les ménages ciblés ont déjà été identifiés et la distribution est censée commencer cette semaine. Par ailleurs, les autorités de Dakar ont remis aux maires des communes plusieurs centaines de tonnes de riz, du sucre et du savon à distribuer aux Dakarois les plus vulnérables à la pandémie. Le FMI a donné son feu vert à un prêt de 745 millions de dollars pour appuyer les mesures des autorités tunisiennes visant à atténuer les répercussions socio-économiques du coronavirus. Ces fonds permettront aussi au gouvernement de garantir un niveau adéquat de réserve internationale et de mobiliser des financements supplémentaires auprès des bailleurs de fonds. Pour terminer, les principaux pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour des réductions de production historiques dans le but de faire chuter les prix du pétrole en raison du coronavirus et de la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La réduction sera de 9,7 millions de barils par jour à partir de mai et juin. L'accord prévoit aussi des réductions progressives jusqu'en avril 2022.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Athlétisme, les prochains mondiaux auront lieu du 15 au 24 juillet 2022.
Oui, les championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis repoussés d'un an suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu du 15 au 24 juillet 2022, a annoncé la Fédération internationale d'athlétisme. Les mondiaux d'athlétisme étaient initialement programmés du 6 au 15 août 2021, une date rendue impossible par le report d'un an des JO de Tokyo qui auront finalement lieu du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
Basketball, le prochain championnat d'Afrique des nations masculin, est reporté d'une semaine toujours à cause du nouveau coronavirus.
Initialement prévue du 17 au 29 août 2021 au Rwanda, la 30e édition de l'Afrobasket a été décalée d'une semaine, soit du 24 août au 5 septembre 2021, afin d'éviter un problème de calendrier avec les Jeux Olympiques de Tokyo, a annoncé la FIBA, la Fédération Internationale de Basketball. Rappelons que l'Euro aussi a été reporté d'un an. L'année 2021 s'annonce donc riche en compétitions internationales.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedounia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les trois grandes villes et les territoires de la province du Nord Kivu ont été placés en quarantaine pour éviter la propagation du Covid-19 dans la région. Dans les milieux ruraux où les populations sont plus démunies, avec un accès limité à l'information, c'est de porte à porte que les leaders communautaires essaient de faire la sensibilisation. Charlie Kasereka, notre correspondant dans la région.
Pour limiter la propagation de la pandémie, le gouverneur des provinces a depuis mis fin au déplacement des populations entre villes et agglomérations, sauf la circulation des marchandises. Le seul problème dans les villages, c'est la sensibilisation qui fait défaut. Dans ces milliers ruraux, l'information sur la pandémie y arrive difficilement. C'est le cas par exemple du territoire de Rutshuru, environ 75 km au nord de Goma. Ici, peu d'informations filtrent sur la maladie. Delphin Mwanamulere est activiste dans cette région.
On écoute parler dans les réseaux sociaux, on les voit, mais on n'en est pas vraiment les informations qui sont réelles. On n'a pas quelqu'un pour nous sensibiliser. Il y a ceux qui disent que non, c'est la fête du monde. Il y a ceux qui nous disent, prendre un peu de l'aloe vera et puis nous serons immunisés. Franchement, nous n'avons pas assez d'informations. Ça paraît aberrant qu'on dise à quelqu'un de respecter les mesures quand même il ne connaît pas. C'est quoi cette maladie? Comment ça se transmet?
Plus loin dans la région de Beni, à plus de 350 km au nord de Goma, une région récemment touchée par Ebola, les organisations locales de la société civile luttent pour éliminer les rumeurs et les fausses informations sur cette pandémie. Jacques Sinzaera est sur place à Beni.
La mesure chef de l'État prise à Kinshasa par rapport à la gratuité de l'eau et l'électricité et qu'à Beni, la population de Beni doit aussi en profiter. Ebola était tellement financé, on trouve que coronavirus est dangereux. Voilà pourquoi on demande à ces organisations humanitaires d'accompagner le gouvernement dans l'appui au confinement de la population.
Dans le sud-ouest de la province, le travail de sensibilisation est encore plus compliqué dans la région de Masisi. Ici, les sites d'extraction artisanale des minerais foisonnent. Les orpailleurs qui sont obligés de travailler en chaîne viennent de recevoir les premières informations sur la pandémie et les gestes barrières pour se protéger. Le député national Justin Daïchimier est venu jusque dans les mines pour retrouver les creusers artisanaux qui doivent continuer à travailler pour leur survie.
J'ai essayé de passer moi-même dans chaque village. Ici, nous sommes dans des carrières minières. Et je suis obligé de passer dans chaque carrière et pour les apprendre comment est-ce qu'ils doivent se protéger. Le message, c'est seulement de se laver les mains, de rester à distance, de ne pas se coller, de ne plus encore se saluer.
Le nouveau Covid-19 sévit en République démocratique du Congo depuis le 10 mars dernier, avec plus de 230 cas dans la ville province de Kinshasa, la capitale. Dans la partie est, la province du Nord Kivu est touchée avec au total 5 cas, dont 3 à Goma, aidés dans la ville de Beni en date du 12 avril. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
L'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo est décédé ce samedi 11 avril à Paris à l'âge de 82 ans. L'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, ancêtre de l'UA, était à la fois un grand homme d'État, un écrivain et un panafricaniste. Découvrons ces trois aspects de l'homme avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
deux fois Premier ministre du Togo d'avril 1994 à août 1996, puis de juin 2005 à septembre 2006, Edem Kodjo était un homme politique de consensus. Candidat à l'élection présidentielle de 1993, l'homme se réclamait plutôt du centre. Ses positions politiques centristes lui ont valu d'être critiqué par l'opposition radicale de trop proche du pouvoir. Pourtant, Edem Kodjo est considéré par Maître Joseph Kokou Kofigo comme l'un des artisans du processus de démocratisation au Togo. Père du concept du grand pardon, l'homme aura marqué sa génération. Maître Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre du Togo.
Edem Kodjo estimait que la démocratie ne pouvait prospérer au Togo que s'il y avait une sorte d'entente ou de tolérance entre les tenants de l'ancien pouvoir et ceux qui sont les nouveaux acteurs du processus politique au Togo. C'est ce concept-là qu'il a appelé le grand pardon. Il a apporté sa part, il a contribué à la lutte politique pour l'avènement de la démocratie jusqu'à il était candidat aux élections présidentielles de 1993.
Il était un repère, un modèle, un père. Il était une référence. Sa révérence.
Kodjo était également un grand écrivain. Quelques heures après l'annonce de son décès, le jeune poète togolais Armand Esso lui dédie quelques vers. Pour Armand Esso, l'écrivain qui a cassé sa plume était sa lanterne.
J'ai rencontré Mme Kodjo il y a de cela un an. Il m'a même donné 4 de ses ouvrages. Mme Kodjo est un mentor qui m'a promis de préfacer donc un de mes ouvrages, qui d'ailleurs, le tapiscrit est actuellement sur sa table. Il faut l'avouer, le Togo a perdu un grand homme, un citoyen hors pair qui a un talent spécial, qui est une référence. Et au-delà de ses écrits, c'est un panafricaniste.
Parlant du panafricaniste qu'il était, l'ancien secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'institution qui sera remplacée par l'Union africaine, avait suivi les pas de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré en mettant à la disposition du continent un manifeste pour une réelle intégration. Nous retrouvons l'ancien Premier ministre togolais, Maître Joseph Kokou Kofigo.
On lui doit la rédaction et le lancement de ce qu'on a appelé à l'époque, au milieu des années 80, le plan d'action de Lagos qui devait réaliser l'intégration africaine et l'unité africaine, bien avant la création de l'Union africaine. Edem Kodjo a fondé aussi Pax Africana, qui est une ONG panafricaniste. Edem Kodjo défendait avec bec et ongles l'idée du panafricanisme.
Edem Kodjo est auteur de plusieurs ouvrages, dont « Et demain l'Afrique »,« Au commencement était le glaive » et « Lettre ouverte à l'Afrique séquentenaire », pour ne citer que cela. Il s'en est allé tel le soleil qui disparaît au crépuscule, alors que de jeunes écrivains voulaient encore bénéficier de sa lumière. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Edem Kodjo, repose en paix.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Tchad, après la fin de l'opération Colère de Boma, le débat est relancé sur la présence des troupes tchadiennes sur les théâtres d'opération à l'extérieur. La télévision nationale, citant le président Déby, avait laissé entendre la semaine dernière que le pays n'enverrait plus de troupes à l'étranger. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions dans la sous-région. De N'Djamena, André Kodmadjingar.
Le président Idriss Déby Itno menace de retirer ses troupes des opérations de guerre extérieure. C'est ce qu'annonçait la télévision publique tchadienne la semaine dernière. Le média d'État précisait que cette décision avait été prise à l'issue de l'opération Colère de Boma qui a permis en 2 semaines, selon N'Djamena, de bouter les militants de Boko Haram hors du Tchad. À l'issue de 2 semaines d'opération, l'armée tchadienne affirme avoir neutralisé plus de 1000 combattants de Boko Haram sans le soutien des pays voisins.
Il faut que les pays de la sous-région se réveillent.
Jean-Bernard Padari, porte-parole du parti au pouvoir.
C'est vrai, nous assurons notre sécurité, mais il ne faut pas que les gens pensent que le Tchad est là, il peut faire le sale boulot et ils peuvent rester peinards dans leur coin.
Au terme de ces opérations militaires dans les confins du lac Tchad, Idriss Déby Itno prévient, selon la télévision nationale, qu'aucun soldat tchadien ne participera à une opération militaire en dehors des frontières nationales. Narma Disseline, membre du collectif des organisations de la société civile, estime que le chef de l'État fait une fois de plus de la diversion et de chantage à la communauté internationale.
Monsieur Déby, depuis 30 ans de règne, gère le Tchad comme sa propriété privée. Il se réveille un bon matin. Quand ça l'arrange, il prend telle décision. Le soir, lui-même, là, il remet en cause sa décision. Le lendemain, il repart encore avec la même décision. Donc, c'est une déclaration sans effet. Moi, je n'y crois pas. Et je n'y croirai jamais à cet homme-là. Il fait une diversion. Le peuple après. Mon fauteuil d'abord. C'est ça son slogan.
Pour Félix Ndéalbé, Roma Dungar, député et chef de l'opposition, l'envoi des troupes tchadiennes dans les théâtres de guerre à l'extérieur viole souvent l'ordre constitutionnel. Et donc, leur retrait annoncé par le président Déby ne peut être salué par toutes les forces vives de la nation. Il se dit convaincu de la sincérité du chef de l'État.
Pour moi, c'est une décision qui est responsable. Parce que j'ai été sur le terrain présenter les condoléances au président de la République. J'ai vu que c'est un Idriss Déby sincèrement affecté par rapport à ce qui s'est passé à Boma.
Jean-Bernard Badari, porte-parole du parti au pouvoir, invite le peuple tchadien à être unanime derrière son président.
Il est responsable de la sécurité et de la vie des Tchadiens. Il a tiré les conséquences d'un constat. Il faut l'unité nationale derrière le président dans tout ce qu'il décide par rapport à la sécurité de nos concitoyens.
Le Niger et le Nigeria ont jusqu'au 24 avril prochain pour réoccuper leur territoire libéré par les troupes tchadiennes, avertit les autorités de N'Djamena. Mais ce dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Béchir Issa Hamidi, a tenu à apporter des précisions, soulignant qu'il n'a jamais été question de retirer les troupes des théâtres d'opérations extérieures. Dans le bassin du lac Tchad, les troupes tchadiennes vont rester au sein de la force multinationale mixte de la CBLT et n'interviendront désormais que dans ce seul cadre. Il n'a jamais été question pour le Tchad de se désengager de la force multinationale mixte de la CBLT, Commission pour le bassin du lac Tchad, ni de la force conjointe du G5 Sahel, encore moins de la Commission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, insiste le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. André Kodouma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait vendredi son 3e discours sur la lutte contre la pandémie de coronavirus dans le pays. Il a reconnu que l'activité économique était sérieusement affectée et il a annoncé des mesures pour alléger les souffrances des populations, mais aussi pour faire face à la diminution des revenus de l'État. Le coût de l'ensemble des mesures sera d'au moins 500 milliards de francs CFA. Kassim Traoré.
Ce discours du président Ibeka était très attendu parce que les Maliens étaient dans l'attente des mesures pour atténuer leurs souffrances face au COVID-19. Le président Ibeka a commencé par évoquer les mesures sur le plan sanitaire.
Au niveau national, tout sera mis en œuvre pour que les entreprises locales de textiles, grandes, moyennes ou petites, y compris les tailleurs qualifiés, puissent produire sur place des millions de masques au profit de la population. À cet effet, notre devoir sera de faire en sorte que chacun de vous ait un masque. Et le programme Un Malien, un masque, que j'ai le plaisir de lancer depuis ici, sera une réalité. Une commande spéciale de 20 millions de masques lavables sera livrée à Bamako dans le courant de la semaine prochaine.
Le président annonce la diminution de la douane sur les produits de première nécessité pendant 3 mois, avec la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité pour 2 mois, avril et mai, pour les consommateurs des tranches sociales. Un fonds de 100 milliards de francs CFA pour les familles vulnérables sera mis en place. Les mesures sociales vont coûter, selon Ibeka, la moitié du budget national.
Conscient de l'impératif de solidarité, les membres du gouvernement renoncent à 1 mois de salaire pour l'effort de guerre. Le président de la République, que je suis, a 3 mois. Le chef du gouvernement, 2 mois de salaire. Les institutions de la République ont donné le ton. Chaque chef d'institution a consenti. Et toutes les allocations budgétaires seront revues. La révision commencera par le sommet de l'État. Il sera fait preuve de plus d'innovation dans la mobilisation des ressources. Et les fonds constitués seront scrupuleusement gérés sous la supervision du chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances.
Il y aura 100 milliards de francs CFA pour l'apurement de la dette intérieure. avec un fonds de garantie bancaire de 20 milliards de francs CFA pour les PME-PMI, avec la remise d'impôts pour les entreprises et industries sinistrées, hôtellerie, voyage, restauration, transport et culture pour la préservation de l'emploi.
Un fonds spécial de 100 milliards de francs CFA pour les familles les plus vulnérables sera mis en place. Diminution pendant 3 mois de la base taxable au cordon douanier des produits de première nécessité, notamment le riz et le lait. Prise en charge pour les mois d'avril et de mai des factures d'électricité et d'eau des catégories relevant des tranches dites sociales, c'est-à-dire les plus démunis.
Le président Ibeka confirme le maintien du second tour des législatives prévu le dimanche 19 avril 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.